Bienvenue dans Courant Libre, le podcast qui part à la rencontre de celles et ceux qui ont décidé de mettre un peu plus de liberté dans leur vie. Que ce soit avec le voyage ou tout simplement comme style de vie, je vous embarque avec moi pour découvrir des personnalités intéressantes, attachantes, mais surtout inspirantes. Et pour ce 13e épisode, je vous propose de découvrir Morgan, alias Capitaine Morgan, qui est un voyageur plus que confirmé puisqu'il a voyagé dans plus d'une centaine de pays. Ancien participant de The Island saison 2 en tant que candidat et caméraman, il a récemment réalisé un voyage inoubliable avec son ami Maxime. Les deux amis ont parcouru plus de 20 000 km à moto jusqu'en Inde pour acheter une écharpe perdue. Je vous laisse la surprise sur le pourquoi du comment. Nous parlerons de ce voyage incroyable mais aussi du parcours de Morgan qui est original et riche d'expériences en tout genre. Allez, je ne vous en dis pas plus, préparez vos zygomatiques parce que vous allez souvent rire. Bonne écoute sur le podcast de Courant Libre. Salut Morgan.
Salut, salut.
Je te remercie vraiment d'accepter cette invitation. J'avais hâte d'enregistrer ce podcast avec toi, puisque tu as pas mal de choses à raconter. Je pense qu'on a pas mal de points communs vis-à-vis du voyage et de plein d'autres choses. Donc vraiment, je te remercie vraiment d'être là aujourd'hui pour ce podcast.
Et bien, merci à toi de m'avoir contacté.
Bah, écoute, avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas ?
Alors, je m'appelle Morgan, j'ai 32 ans, je suis réalisateur en documentaire pour la télévision et je voyage beaucoup. Voilà, okay. Si je le fais dans les grandes lignes, on est ça. Et je suis motard, c'est un peu un des trucs qui me caractérise le plus.
On va y venir sur le côté motard. Donc du coup, tu dis que tu es réalisateur, est-ce que du coup, tu as fait des études dans ce sens ou c'est quelque chose qui est arrivé
Non, pas du tout. Alors pour le coup, moi, j'ai vraiment aucun diplôme, mais vraiment aucun. J'ai même pas le brevet. Non, c'est vraiment par hasard. Je suis allé progressivement vers ça, et puis ça a bien marché, quoi. C'est un peu les hasards de la vie qui m'ont amené là-dessus, quoi.
D'accord, parce qu'en fait, moi, pour tout dire, je t'ai découvert comme beaucoup de personnes il y a quelques années sur M6 dans l'émission The Island, où en fait, toi, t'étais un candidat un petit peu particulier dans le sens où t'étais pas juste un candidat, t'étais aussi quelqu'un qui était chargé de la captation, tout ce qui était au niveau prise d'image. Comment ça s'est passé cette aventure? Comment t'es arrivé là en fait?
En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, à l'époque, je travaillais en Arabie Saoudite pour une boîte saoudienne, quoi, grosso modo, qui faisait dans l'événementiel, tout ça. Et je gérais la partie vidéo de ça. Je faisais pas encore vraiment de télé. Mais je savais filmer, donc c'est pour ça que je faisais ça. Et puis, The Island, donc M6 m'avait contacté, enfin, la boîte de prod qui fait The Island pour M6, en disant, on a besoin d'un caméraman un peu aventurier et tout. Bah, il se trouve que moi, j'avais déjà l'habitude de voyager 6 mois par an et d'être tout le temps dans des configurations un peu extrêmes, on va dire, quoi, parce que j'ai travaillé dans une boîte de sécurité, j'ai travaillé dans pas mal de trucs qui avaient vraiment rien à voir avec le milieu de l'image. Et j'avais dit OK. Alors, comme je connaissais pas très bien la télé française, au début, quand il m'avait pitché l'émission, je croyais qu'il me parlait de Koh-Lanta. J'avais pas compris que Koh-Lanta, c'était pas sur la même émission. Et donc, que moi, j'allais filmer des mecs crever la dalle et que le soir, j'allais dormir à l'hôtel, quoi, genre à la bien. Puis, il s'est avéré que 3 semaines avant, je débarque, je les rencontre, ils me filment, ils me font l'espèce de petit casting, quoi, parce que les caméramans aussi avaient un casting, vu qu'on nous voit à l'écran. Et donc là, ils m'expliquent vraiment en profondeur. Et puis, donc, moi, je découvre. Là, ils étaient un peu paniqués à se dire « Putain, le mec, il va nous lâcher, quoi. Genre, on vient de lui expliquer qu'il va terminer avec des moustiques sur une île déserte à crever la dalle. » Alors que moi, j'étais super content. Genre, ils disaient « Ah, trop bien. En fait, c'est encore mieux, quoi. Genre, et en plus, je suis payé. C'est magnifique. » voilà. Donc, c'est comme ça que ça avait un peu commencé cette histoire de The Island. Et puis, j'ai plu à la production. Donc, ils m'ont pris. Et comme j'avais peut-être un peu plus l'habitude que les autres candidats d'être dans ce genre d'environnement, quoi, parce que moi, j'aime bien tout ce qui est un peu survivalisme, un peu tous ces trucs. Bon, du coup, je faisais les blagues sur l'île. Et puis, c'est comme ça que je m'étais fait remarquer, quoi.
Effectivement. Et par rapport à cette aventure-là, comment toi, tu l'as vécu? Est-ce que toi, tu as fait partie de ceux qui ont rencontré Mike Horn? Comment ça s'est passé? Enfin, toi, qu'est-ce que tu retiens de cette aventure au sens large du terme?
Et ben, je retiens surtout des amitiés. Parce que bon, l'aventure en elle-même, enfin, ça, c'était un tournage cool, mais c'est pas une aventure qui m'aura changé, quoi. J'ai traversé des déserts à pied, j'ai gravi des montagnes, enfin, j'en ai beaucoup plus chié que sur The Island, quoi. C'était plus. Mais non, c'est les amis que je me suis fait là-bas. Bah, d'ailleurs, là, présentement, pendant ce. Donc, on est en période de confinement, moi, je suis confiné chez un de mes potes que je me suis fait sur The Island, quoi. Donc, ce n'est pas juste des amis, des gens qu'on croise de temps en temps, quoi. J'ai deux, trois très, très bons amis que j'aurais jamais rencontrés en temps normal. Parce qu'on n'est pas du même milieu. Et c'est ça qu'il y a de fort avec The Island, c'est qu'une fois que tu remets tout à plat, de retirer toutes les barrières au niveau pognon, milieu social, et puis qu'à la fin, on est juste en slip sur la plage, bah, tu vois qui sont vraiment les gens. Et c'est ça qui était assez dingue avec cette aventure.
Et du coup, par rapport à cette aventure, par rapport à cette aventure, pardon, est-ce que ça t'a donné envie de plus de voyages? Est-ce que ça t'a donné envie de créer une chaîne YouTube? Est-ce que du coup, tu t'es dit, je vais me servir de cette aventure-là pour créer quelque chose derrière, ou toi, t'es retourné entre guillemets dans ta vie d'avant?
Alors moi, je suis retourné pour te dire, The Island, je suis sorti à la fin de l'émission. Moi, j'avais demandé à la prod si je pouvais pas rester au Panama, quoi. Tu vois, genre, j'avais pas de raison de rentrer en France, j'avais pas de taf qui m'attendait et tout. La production, ils étaient genre, mais enfin, mec, t'es gaulé comme une allumette, tu veux pas rentrer te coucher et tout. Donc, je suis rentré en France. Dans la foulée, je suis parti au Sri Lanka. Enfin bon, j'ai continué mes voyages et tout ça. Non, ce qui m'a donné envie de faire une chaîne YouTube, c'est tout simplement que en fait, pendant mes voyages, développement d'Instagram, moi, j'étais pas trop un mec des réseaux. J'ai commencé à faire des stories. Sauf que je voyais pas l'intérêt de faire des stories de moi sur la plage, quoi. Donc, les stories que je commençais à faire, c'était quand j'étais en Amérique du Sud, je filmais bah, un marché aux fruits où les mecs, ils parlent dans une espèce de gigaphone pour vendre les fruits. Je fais, ah bah tiens, allez. Puis j'expliquais aux gens en même temps. Je disais, alors là, vous voyez, dans un marché aux fruits, les mecs, ils font ça. Puis après, je commençais à faire des stories quand j'étais enfin, pas loin de mineurs. Je suis tout le temps curieux, moi je rencontre des gens, je fais ah, mais c'est quoi ta life quoi? Mais même en France, hein, je parle aux gens dans le métro et tout.
Oula, un Parisien qui parle aux gens dans le métro, c'est pas normal, ça, dis donc.
Ah ouais, non, mais les gens ils sont un peu. Puis ils voient qu'il n'y a pas d'animosité quoi. Puis je suis assez naïf quoi. C'est par exemple, je vois quelqu'un qui est noir dans le métro qui parle un dialecte que je connais pas, je lui ai demandé, excusez-moi, c'est quelle langue? Mais il n'y a rien de raciste en fait, c'est juste, tu dis, bah ouais, c'est une langue que je connais pas, je suis curieux en fait. Et donc, du coup, je faisais des stories comme ça un peu partout de dire bah là, c'est marrant, il se passe ça, il se passe ça. Et les gens, ils ont commencé à me dire mais fais-en des vraies vidéos parce que tes stories, elles sont super intéressantes, quoi. Et en fait, je commençais à gagner des followers juste en montrant comment vivaient les autres. Et pas en montrant des plages paradisiaques et les doigts de pied en éventail à boire des cocktails, quoi.
Et ça part. C'est à quel moment que t'as créé ça? Juste, il a fallu combien de temps entre The Island entre guillemets et la création de la chaîne?
Je saurais même pas te dire, The Island, ça s'est fini il y a 5 ans, 6 ans, je crois, donc je dirais 3 ans plus tard. En fait, la chaîne, elle s'est créée que sur un coup de tête. C'était en gros, j'étais en Amérique du Sud, j'ai mon meilleur pote qui me dit, j'ai envie de faire un gros voyage avec toi, et on part en moto. Et là, tu sais, ça mûrissait, je me suis dit, allez, viens, on se le filme celui-là, quoi. Enfin, c'est quand même mon taf, je sais filmer, je bosse en télé, je sais comment ça marche, quoi. Et du coup, on a juste acheté deux téléphones portables, un disque dur, deux GoPro, et c'est parti, quoi. Donc, c'est pas comme s'il y avait une préparation.
Ouais, c'est ce que j'allais y venir par rapport à ce voyage, on va dire. Enfin, c'est une sacrée aventure que tu as partagée sur ta chaîne YouTube. Mais avant ce voyage-là, en fait, tu étais déjà en Amérique du Sud, d'après ce que j'ai compris.
Ouais, ça faisait
Et
6 mois que j'étais en Sud.
du coup, tu étais tout seul, ce voyage en Amérique du Sud, là, tu étais seul ou tu étais accompagné ou tu le faisais dans un cadre professionnel? Comment ça s'est passé ce voyage?
Alors non, en fait, moi, tous mes voyages, je les ai toujours faits seul. Il n'y a que le dernier que j'ai fait accompagné. En fait, si je te le fais au sens temporel, quoi, le tout premier voyage que j'ai fait, c'était à 18 ans. Je devais partir dans le sud du Maroc 2 semaines, parce que donc ma famille est marocaine, hein, j'ai passé une partie de ma vie là-bas. Et je devais partir 2 semaines dans le désert. Et en fait, il s'est avéré que une chose en entraînant une autre, ces 2 semaines se sont transformées en 2 ans. De voyage où je travaillais un peu sur la route à droite à gauche, donc je suis descendu du Maroc jusqu'en Mauritanie. Enfin, c'est une histoire assez drôle sur comment une suite d'événements en a amené un autre et je rentrais pas. Puis il n'y avait pas les réseaux sociaux à l'époque. Donc, dis-toi, j'appelais ma mère. C'est allô maman? Ouais, je suis à Lomé au Togo. C'est mon Dieu, mon fils, t'es où? Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que tu peux pas m'envoyer un petit Western Union? Je suis dans la merde là et tout ça. Et puis après, je retrouvais un boulot ailleurs et ainsi de suite. Soudan, Émirats Arabes Unis. Enfin, j'ai fait un peu tous les trucs. J'étais sans doute jusqu'en Thaïlande, mais par la route, hein, tout ça. Hein. Et à la fin, j'ai fini aux États-Unis pendant super longtemps où j'avais un problème, c'est que bah, quand tu gagnes de l'argent là-bas, la vie coûte tellement cher que je le perdais aussi sec, donc j'arrivais plus à bouger. Et au bout de 2 ans, je suis rentré en France. Et là, de là, bah, c'est là que j'ai commencé à bosser vite fait à droite à gauche. J'ai trouvé un boulot en sécurité vers Djibouti avec des mecs que j'avais croisés sur mon précédent voyage. Et voilà, je suis reparti pendant 4 ans. Donc après, c'était reparti pendant 4 ans de voyage en mode, j'étais un coup à Djibouti et un coup, je bougeais un peu partout en Afrique. Et quand j'en ai marre de ce boulot de sécurité, j'ai commencé à bosser en télé. Et là, en télé, bah, je me suis dit, mais attends, en fait, je suis pas en CDI. Je vais juste travailler, gagner plein de thunes. Dès que j'ai suffisamment de thunes, je me casse. Et dès que j'ai plus d'argent, bah, je reviens à la queue entre les jambes et puis j'appelle des gens pour essayer de retrouver du boulot, quoi. Et je partais comme ça 6 mois, donc un coup toute l'Asie du Sud-Est, un coup j'ai fait la Chine pendant plusieurs mois, l'Inde pendant plusieurs mois, etc. Et l'Amérique du Sud, voilà, j'étais parti tout seul et mon but c'était d'aller au Cap Horn et de remonter à pied ou en stop jusqu'à Punta Galena, la plage la plus au sud de la plus au nord de l'Amérique du Sud. Donc faire vraiment tout le continent. Une histoire assez marrante, il m'est arrivé plein d'aventures sur ce continent. Et donc le dernier voyage en date, ça a été bah, sur la fin de l'Amérique du Sud, mon meilleur ami qui m'appelle et qui me dit, bah, viens, j'ai envie qu'on bouge, quoi. Et donc là, on est parti jusqu'en Inde en moto. Là, t'as un peu la map de un peu tous les voyages, quoi.
Le storytelling qui est très très bon dans cette histoire, c'est l'histoire d'une écharpe a priori que tu as perdue.
Ben oui, c'est ça.
Et du coup, tu peux nous raconter qu'est-ce qui s'est passé avec cette écharpe?
En fait, c'est une écharpe que j'avais achetée il y a je ne sais plus combien d'années, très longtemps, en Inde, dans un bled Rishikesh dans le nord de l'Inde, pas loin du Cachemire. Et je l'ai perdue dans la montagne, dans la cordillère des Andes, en Amérique du Sud, quoi. Et alors, j'étais extrêmement triste. D'ailleurs, c'était même très drôle parce que j'avais perdu deux choses ce jour-là. J'avais perdu une montre que mon ancien patron m'avait offert, une montre à 2000 balles. Et cette écharpe que j'ai dû acheter 4 euros. Je m'en foutais de la montre et j'ai passé un mois à râler sur mon écharpe. C'est-à-dire, c'était vraiment une valeur sentimentale, quoi. Et donc, du coup, mon pote m'appelle, me dit, viens, on va en Mongolie, faire de la moto en Mongolie, c'est un rêve, c'est un gros truc de biker. Mon pote, c'est un motard, moi, je suis un motard. Voilà. Et là, je lui dis, bah, écoute, la Mongolie, je pense qu'on va skier les meules. C'est pas la saison. Par contre, viens, on fait à peu près la même route et on va en Inde retrouver mon écharpe, quoi. Genre. Il me dit, quoi, c'est quoi cette histoire? Je dis, ouais, viens, on va en Inde, on essaie de retrouver la même boutique et que je puisse racheter la même écharpe, quoi, exactement la même au même endroit. Et là, on est parti pour 20 000 bornes à traverser toute l'Europe, la Turquie, l'Iran, le Pakistan, et d'arriver comme ça en Inde par la voie
Et
terrestre.
ce qui est, tu dis 20 000 km, 12 pays, 6 mois de voyage. Est-ce que du coup, tu dis que tu étais déjà motard? Ça faisait longtemps que tu avais le permis moto.
Oui,
Parce que moi,
ça faisait.
quand je t'ai découvert sur ta chaîne YouTube, enfin, quand je t'ai redécouvert plutôt, en fait, je me dis, tiens, la moto, est-ce que ça faisait déjà longtemps qu'il en faisait? Parce que j'avais déjà fait l'interview dans ce podcast d'Enzo, qui, en fin de compte, lui avait acheté aussi une moto pour aller jusqu'en Mongolie. Et du coup, ouais, ma question, c'était, est-ce que ça faisait longtemps que t'étais motard, quoi?
Ouais, j'en ai toujours fait de la moto. C'est vraiment quand j'étais petit au Maroc, j'étais sur une petite Piwi 50, je devais avoir 10 piges, je tenais là-dessus et le copain, donc Maxime avec qui je suis parti, on était adolescents quand je suis arrivé en France, on était adolescents en race campagne et on était sur pareil les petites motos qui font même dans les champs, donc j'en ai toujours eu.
D'accord. Et d'où vient cette passion pour le voyage? Parce que tu dis que ça a commencé à 18 ans, le voyage, on va dire, au sens strict du terme, parce que au lieu de passer 2 mois, tu as passé plus de 2 ans. Est-ce que c'était déjà à l'enfance ce besoin de découvrir? Enfin, ça t'est venu comment ce besoin d'aventure?
Ouais, je ne saurais pas trop dire. Bah, c'est ainsi, quand j'étais petit, de base, de toute façon, mon père voyageait énormément et il m'embarquait tout le temps avec lui, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas eu de déclic. C'était, il travaillait, il faisait le même boulot que moi, d'ailleurs. Il était journaliste. Enfin, c'était une autre époque. Et donc, en gros, voilà, quoi, vu que j'étais nul à l'école, lui, il m'embarquait avec lui sur tous ses tournages, quoi. Donc, c'était un coup. Un coup, j'étais en Inde avec lui, un coup, j'étais en Roumanie dans les égouts à filmer des gamins. Après, c'était à New York dans un grand hôtel parce qu'il y avait une nouvelle boîte de prod. Donc voilà, tu vois, on bougeait tout le temps. Donc pour moi, c'était un truc complètement normal de se dire que ton horizon, c'est pas chez toi. En fait, t'es partout chez toi. C'est genre le monde entier, c'est un champ des possibles, quoi. Il n'y a pas de frontières finalement.
Mais ça se ressent en fait quand on suit tes aventures, qu'il y a un côté très proximité avec le monde qui t'entoure, et c'est assez intéressant parce que je dis tiens, il y a pas mal de facilité. D'ailleurs, il y a une question qui me vient. Tu parles pas mal de langues dans tes vidéos. En tout, tu parles combien de langues en fait?
Ou bah ça change en fait. Ça change parce que j'en apprends, je l'oublie, ça revient. Je suis plutôt des facilités avec les langues. Alors couramment, je parle couramment français, anglais, espagnol, voilà, très bien quoi. Après l'arabe, je me débrouille plutôt bien. Ça dépend, plus je reste dans le pays, plus ça vient. Mais quand j'étais resté en Indonésie, au bout d'un moment, passé 2 mois, ça y est, je parlais indonésien. Hein. C'était pas après l'anglais, c'est très 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 facile comme langue, mais donc oui, ça évolue. Enfin, l'espagnol, je parlais pas un mot d'espagnol avant d'arriver en Amérique du Sud.
Ouais, des facilités quand même pour intégrer des nouvelles langues, ça c'est pratique.
Ça, c'est
Et
assez cool.
au niveau de la préparation, parce que au début du podcast tu dis au final on est parti, on n'a pas réellement préparé le voyage avec ton pote Maxime, mais vous l'avez pas du tout préparé, même pas un itinéraire, des étapes. Il y a quand même eu
Alors,
une petite préparation de son côté ou du tien ou ensemble.
oui, alors bon, Max est beaucoup plus carré que moi comme garçon. C'est plutôt lui qui m'a un peu mis en garde sur tout ce qui était, comment est-ce qu'on va dire, administratif. Donc, à savoir, il y a quand même des choses, des impondérables. Hein. Les visas, tu peux pas arriver la main dans le froc et dire bonjour, toquer à l'entrée du pays. Donc, ça, c'était les petites prépas qu'on avait à faire, les visas. Après, le reste. Bah, en fait, le reste, c'était assez simple. Hein. Moi, j'ai dit à Max, écoute, de toute façon, la route, c'est par là-bas, on va tout droit. Et puis, si on a un problème, on avisera sur place, quoi. Des garages, il y en a partout, des stations essence, il y en a partout. Enfin, le monde n'est pas très compliqué, quoi. Enfin, le monde d'aujourd'hui est plus très compliqué. Voyager aujourd'hui, pour moi, c'est à la portée de n'importe qui. C'est juste ce que tu as envie de t'emmerder à être sur une moto pendant 6 mois. Mais non, non, j'étais serein en fait. C'est le matin, tu vois, pour rien te cacher, le matin même, dans ma vidéo, on me voit en train de ranger mes affaires et tout. C'est pas pour de faux, ça, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. C'est
Et vraiment
Maxime.
au dernier moment, quoi.
Ah oui, c'est Maxime m'avait dit on se donne rendez-vous à telle heure. C'est quoi, pour être même complètement honnête, j'étais avec une meuf et le matin, je la réveille et je lui ai dit faut que tu partes parce que j'y vais, je dois aller en Inde. Non, mais c'était vraiment ça, quoi.
L'excuse.
C'était genre de quoi, tu vois. Genre, je sais plus qui c'était sur Tinder ou un truc comme ça. Je disais, bah ouais, non, je dois partir en Inde en fait, là en moto avec un copain. Faut que je fasse mes affaires et tout ça. Et il faut que je me filme, donc faut pas que tu sois dans le cadre en fait, tu vois. Genre... Donc c'est vraiment en mode je suis descendu, j'avais à peine pris ma douche. Et la discussion qu'on a dans l'épisode de Max, il me dit, t'as révisé ta moto, t'as fait ta vidange, tout ça. Où je dis non, bah c'est vrai, quoi. J'avais rien préparé. En me disant, je préfère qu'elle tombe en panne, finalement, au fin fond du Pakistan, où ça va pas me coûter cher de la réparer, qu'en France, où je vais douiller ma race chez un garagiste, quoi.
Ouais, c'est sûr. Et au niveau de la moto, c'était une moto que tu avais déjà avant le voyage ou c'est une moto que tu as achetée pour ce voyage?
Pas du tout. C'est une moto que j'ai achetée pour ce voyage. Je l'ai trouvée sur le bon coin. Et quand j'ai vu le mec qui l'avait, c'était un gars qui l'avait bichonné. Donc j'ai même pas contre-checké derrière la moto. Le mec, je me suis dit, il est carré, voilà, la confiance.
Et c'est quelle marque, quel modèle de moto pour ceux que ça intéresse?
Alors, c'est une vieille Honda Transalp de 1993. Et donc, l'avantage, c'est que je l'ai payé une misère, parce que je l'ai payé 1500 euros avec la bagagerie. Donc, j'ai même pas eu à acheter les bagages, quoi. Donc, à la fin, c'est pas excessif, quoi.
Et au niveau du budget, est-ce que c'est un budget que tu avais défini à l'avance ou que vous aviez vu ensemble au niveau de la globalité de l'enveloppe ou est-ce que vous aviez peut-être un budget quotidien? Comment ça s'est passé de l'organisation de l'argent?
Alors, pareil, ça doit être le. Ouais, non, je ne vais pas dire que c'est le premier voyage comme ça, mais on ne s'est vraiment pas posé de questions. On a une situation qui est quand même plutôt confortable. Tu vois, mon pote, il bosse en finance. Moi, je bosse à la télé et on vit assez chichement. Donc, le budget, on ne l'avait pas prévu à l'avance, mais on avait à peu près le même mode de vie, quoi. Donc, on savait qu'on n'allait pas dormir au Phuket tous les soirs. Ouais, on ne s'est pas posé la question. Le budget, à la fin, on a calculé qu'en tout, on avait claqué environ 8 000 euros par personne pour tout le voyage. Ce qui n'est pas énorme quand on pense que c'est 6 mois de voyage, que ça comprend le prix d'achat de la moto, le prix des visas, le prix du billet d'avion retour, parce qu'une fois qu'on arrive en Inde, il faut quand même revenir, et le prix du porte-conteneur pour rapatrier les motos. Donc en vrai, bah, c'était vraiment pas cher, quoi. Ça fait qu'on a vécu à moins de 1 000 euros par mois. En Iran, par exemple, on a dépensé 300 euros en un mois, hein.
Ouais,
Enfin,
c'est énorme.
y a, le premier budget, c'est l'essence. Tu es dans des pays, l'Iran, 1 euro, c'est 20 litres d'essence. Donc déjà, ce budget-là, ils font. Le deuxième budget, c'est la nourriture. Dans ces pays-là, ça coûte pas cher. Et le troisième, c'est l'hôtellerie. On s'est retrouvé à se faire inviter tout le temps. Donc en vrai, même ces 300 euros, je ne sais même pas dans quoi on les a mis en Iran, tu vois.
Et dans les autres pays, au niveau de l'hébergement, parce que j'ai vu dans certaines vidéos que vous faisiez aussi parfois du bivouac, comment vous vous êtes organisé? Est-ce que c'était quelque chose où vous disiez le soir même, faut être à tel endroit, il faut qu'on trouve un endroit pour dormir, ou c'est plus un peu, bon, on verra comment on va se sentir et on avisera sur place?
Un subtil mélange des deux. C'était,
Ouais.
y avait, en fait, il y avait des étapes un peu clés où on se disait, voilà, notre but, c'est d'arriver là-bas. Voilà, ça va nous prendre environ 2 jours de route. Parce que quand tu voyages que par la terre, c'est ça aussi, c'est que tu voyages à l'ancienne. Tu comptes en termes de nombre de jours, de nombre d'heures de trajet, puis tu es en moto, c'est fatigant, quoi. Donc là, on est sur notre petite carte et puis on regarde, on dit, bon, 2 jours de trajet. Il y a des fois où on se dit, bon, bah, on va dormir dans ce village. Et au fur et à mesure, tu commences à dire, c'est pas forcément avantageux parce qu'il n'y a pas des hôtels partout et tu vas pas planter ta tente au milieu du village. Donc, on était plus à se dire, on roule jusqu'à ce que le soleil se couche et on se trouvera bien un coin dans cette zone-là entre ces deux bleds, quoi. Quand on arrive dans une vraie ville, là, bah, on dort dans une auberge de jeunesse, avec, les douches et tout ce qui va avec, quoi.
D'accord. Et au niveau, pour en revenir sur le côté bagagerie, est-ce qu'il y a du matériel que vous avez acheté vraiment pour ce voyage-là? Du matériel peut-être pour vous déplacer ou pour vivre, je sais pas moi, ou du matériel vidéo que tu aurais acheté spécialement pour?
Bah, j'ai acheté des disques durs pour stocker mes images, parce que du coup
Ouais,
le
j'allais y venir parce que c'est, à mon avis, le nombre de rushs qu'il doit y avoir. Parce que t'es pas parti avec un ordinateur portable.
non, j'ai tout monté au retour.
Ouais, bon, là, déjà, j'ai envie de dire bravo. Parce que ça a dû. Combien d'heures t'as passé à dérusher? Et si tu devais estimer à peu près combien d'heures par épisode? Parce que faut savoir, et je préfère faire une parenthèse, quand on regarde tes vidéos, on voit tout de suite qu'au niveau du montage, et je te l'ai dit en message, on voit qu'il y a vraiment une bonne patte, on voit qu'il se passe quelque chose, qu'il y a vraiment eu du travail. C'est pas fait n'importe comment, même si ça peut être péjoratif ce que je dis. On voit vraiment qu'il y a vraiment du bon boulot dessus. Combien de temps ça représente tout ça?
C'est inimaginable. Non, en fait,
J'imagine.
vraiment. En fait, ce qui se passe, c'est que, alors, j'ai beaucoup de chance. Il y a une boîte de prod qui m'a laissé utiliser leurs installations, parce que je me voyais pas me lancer là-dedans sur un ordinateur chez moi, tout ça. Mais c'est des nuits de travail. En fait, genre, je bossais sur mon vrai taf et je passais toutes les nuits jusqu'à 2-3 heures du mat. Passer des mois. En gros, ça m'a pris un an. Bon, moins 3 mois de confinement, donc on va dire ça m'a pris 9 mois. 9 mois de travail où je terminais tous les soirs très très tard. Je saurais pas dire. C'est des centaines d'heures. On est sur des centaines d'heures. Hein.
Ah oui, non, mais ça se
C'est.
voit. Et puis en plus, ça s'entend. Ça s'entend parce que là, tu dis que tu as bossé sur du matériel professionnel pour le montage. Et ça s'entend pourquoi? Parce qu'il y a des petits sons qu'on entend, tu sais, des fois, quand tu fais une blague, tu sais, les petits sound design qu'il y a derrière, les petits trucs. Tu sens que ça vient de la téloche. Tu vois ce que je veux dire? Ça vient de la
Ah bah
télé.
ouais. Bah, tu sais quoi, ça c'est parce que j'ai travaillé sur les anges de la télé-réalité. C'était un dans mes premiers tafs que j'ai fait. Bah, c'est la bande de son des anges que j'ai gardée.
Ah bah
Ce
voilà.
petit truc quand je fais une blague et quand on a un petit quoi ça, bah,
Ouais,
ça vient
voilà,
des
c'est
anges.
ça là. Attends, j'ai déjà entendu ça, c'est énorme. Mais en fait, du coup, tu dis que t'avais combien de disques durs en tout? Ça représentait combien de temps pour les dérocher? Enfin, pas pour les dérocher, pour transférer ce que
Ah
t'avais.
mais, alors ça, c'était un bordel. Parce que j'aurais un ordinateur portable. Ce serait allé vite. En vrai, j'ai tout filmé avec des téléphones portables. Voilà. Toute la série est tournée au téléphone portable. Bon, il y a du drone, bien sûr, hein, et de la GoPro, mais c'est du téléphone portable. Donc les images sont pas très lourdes. Donc finalement, même en ayant énormément de rush, ça pèse pas très lourd. Sauf que quand tu es au milieu de l'Iran ou du Pakistan, c'est pas un Intel Pentium 7 avec une RAM de malade, l'ordi que tu vas réussir à trouver. Tu vois, quand tu vois un mec avec un ordi, tu lui dis, je peux utiliser votre ordi pour faire les transferts de cartes dans les disques durs. Donc du coup, je me retrouve avec de l'USB 1. J'avais l'impression d'être dans les années 90, quoi. Limite, si c'était pas des floppy disks, là, des petites disquettes qu'on glissait dans la tour. Et c'était pour transférer 4 gigas. Je voyais que c'était toute la nuit de chargement.
Non,
Et donc, par exemple, il y a des fois où les chargements sur les ordis ont conditionné là où on dormait. Genre, j'ai dit à mon pote, bah écoute, moi, il y a un moment, j'ai plus de carte mémoire. Parce que donc, on a des Samsung, donc on peut mettre les cartes mémoire dans le téléphone, genre rajouter de la mémoire additionnelle, quoi. Mais moi, je lui disais, là, il faut faut que je backup les données, quoi. Il faut que je fasse des sauvegardes parce que j'ai plus de mémoire. Et donc là, j'arrivais, je commence à me brancher un ordi, puis je dis, regarde mon pote, je lui dis, faut qu'on se trouve un hôtel parce que là, c'est parti pour 12 heures de chargement, là. Et c'était l'enfer avec la peur de perdre des rushs parce que chaque disque dur, je le doublais. Donc en tout, j'ai filmé 3 téra de rush.
avec
Fois
des
2.
fichiers qui sont pas lourds à la base, hein.
Ouais, fois 2. Avec des fichiers qui sont pas lourds, mais sauf qu'en fait, ce qui se passe, c'est que. Alors, c'est con à dire, mais en vrai, j'aime pas les vlogs. Voilà, j'aime pas les vidéos de voyage. Je trouve ça chiant. Souvent, c'est un mec qui se filme, qui dit, ouais, on est là, c'est trop super, c'est magnifique, plan drone, musique électro libre de droit. Le mec qui revient, et alors là, j'ai mangé ça, c'est super bon, plan drone. Voilà, c'est tout le temps pareil. Ça ne m'intéresse absolument pas. Puis à l'heure de Ryanair, je comprends même pas que les gens regardent ça, ils ont qu'à prendre un billet d'avion et aller le faire eux-mêmes, quoi. Donc moi, je voulais faire quelque chose de différent. Je voulais faire des interviews. En fait, je voulais faire comme un documentaire. Un livre de voyage qu'on s'attache aux personnages. C'est pour ça que les premiers épisodes, bah, on ne voit pas trop d'interactions, on nous voit plus nous, ça nous présente. Et gentiment, ah tiens, une Iranienne, je lui parle et je lui demande, toi en tant que femme, c'est quoi ta vie en Iran? Ouais, mais sauf que ça, je dois le filmer dans la durée, dans toute la longueur. Donc en vrai, moi, j'ai un fichier d'une heure de conversation avec cette femme, qu'à la fin, je vais réduire en une conversation de 5 minutes. Ça va être d'autres Iraniens aujourd'hui. Et toi, t'es jeune en Iran, t'as envie de boire de l'alcool, mais c'est quoi ta vie? Et alors là, carrément, on est en multicam parce que je demande à Max d'allumer aussi son téléphone, de se mettre loin pour avoir un plan large. Et moi, le mien, je le cale à nous. Et voilà, et là, déjà, on a pareil 2 heures de conversation fois deux sur deux téléphones. Donc en fait, c'est pour ça qu'il y avait besoin d'énormément de rush. Parce que finalement, c'est pas du tout tourné comme un vlog où on fait que de l'ILU et puis des selfies où on raconte ce qui se passe. Là, on a des ITV, on a tout un découpage, quoi.
Et quelle a été ta première réaction au moment où tu t'es arrivé, tu avais tous tes disques remplis et tu t'es dit, là, à partir de maintenant, il va falloir s'y mettre. Est-ce que tu t'es dit, bon, là, j'ai la tête, je ne sais pas, moi. Parce que moi, je te dis ce qui m'est arrivé. En revenant d'Amérique du Sud, j'avais presque 500 gigas de vidéos et déjà, je me suis dit, ça va être chaud. Tu sais, t'as l'impression d'avoir une montagne et il faut y aller. Et du coup, je me dis 3 téra. Et puis en plus de ça, c'est filmé avec plusieurs appareils. T'as le drone, enfin, t'as la GoPro, tout ça. Est-ce que, enfin, tu t'es dit là, il va me falloir un petit peu de temps pour digérer le truc ou t'es dit, bon, allez, bille en tête, j'ai déjà mes idées. Parce que c'est ça la question, c'est est-ce que t'avais déjà une idée de ce que t'allais faire pendant que tu le faisais ou
Oui.
est-ce que les idées te sont venues après, au moment où t'allais commencer le montage?
En faisant le montage, je me suis rendu compte, parce que j'avais oublié, que j'avais déjà les idées. En fait, quand j'ai fait le montage, j'ai regardé comment c'était découpé. Parce que donc moi, à Paris, parfois, je suis réalisateur de trucs et parfois, je suis monteur de films d'autres mecs. Et donc, quand tu montes les images d'un autre gars, qui n'est pas toi, c'est assez drôle parce qu'au bout d'un moment, tu commences à comprendre pourquoi il a filmé comme ça. Si le mec est bon, hein. Si le mec est nul, t'es juste à râler. Et du coup, là, en fait, ce qui se passe, c'est que en regardant mes propres images que j'avais tournées un an avant, parce que j'ai pas commencé à monter dès que je suis rentré, j'étais genre, putain, attends, j'ai tourné ça. Ah, ok, j'ai fait un plan de coupe là-dessus. D'accord, en fait, c'est ça que je voulais dire quand je l'ai tourné. Donc finalement, c'est allé assez facilement. J'avais l'impression de monter les images d'un cadreur que je connaissais très bien, quoi. Et je redécouvrais mon propre voyage. Et je pense que si je l'ai fait en format série, et pas de monter un gros film en unitaire, c'est aussi pour m'alléger du taf, quoi. Parce que tu vois, tu sors un épisode, c'est pour ça que j'ai commencé léger. Premiers épisodes, ils durent 10 minutes, hein. Après, gentiment, ça devient des épisodes d'1 quart d'heure. Les derniers, c'est une demi-heure. Et le gros, gros dernier sur l'Inde, 45 minutes. Enfin, c'est un 45 minutes, c'est le format reportage, hein. C'est blam. C'est une grosse brique. Mais ça, tu le fais doucement crescendo. Mais c'est vrai que j'aurais jamais eu la foi de me dire, allez, j'ai 3 téra, on s'envoie ça dans la gueule, quoi.
Ouais, non, mais franchement, chapeau pour le montage, c'est super bien et je recommande vraiment à tout le monde d'aller voir cette série d'épisodes, c'est super sympa à regarder. On ne s'ennuie pas, effectivement, on n'a pas l'impression de regarder un vlog, t'as vraiment mis le doigt dessus. On a l'impression d'être un peu en caméra embarquée avec vous et dans la confidence en même temps de toutes les personnes que vous rencontrez. Et c'est très très sympa. Et j'ai une question, du coup, tu parles de drone. Déjà, un, t'avais quel drone? Et ensuite, est-ce que t'as eu des problèmes avec, que ce soit au niveau de la douane ou au niveau de son utilisation dans les zones où on sait très bien, toi et moi, qu'il y a 90% des endroits qui sont cool, ou même 100% aujourd'hui, des endroits qui sont cool où t'as pas le droit de filmer. Donc, comment ça s'est passé tout ça?
Et alors, donc, comme tu le dis, 100% des endroits qui sont cool, il n'y a pas le droit de filmer. Et ben, tout simplement, je n'avais pas le droit, quoi. J'étais juste en pas vu, pas pris. J'ai pas eu de problème au sens propre du terme parce que presque tous les passages de frontières se sont faits assez bien. Ce qui était assez drôle, c'est que c'est mon pote qui a une bonne tête de blanc, bien gringo, se faisait fouiller à la race. Moi, j'arrivais avec mes tatouages de partout, le teint mat et tout ça. Bah non, ils s'en fichaient. C'est genre, moi, je passais tranquille. Et non, il nous arrive une petite aventure. C'était en Inde. On arrive en Inde. Le mec à la frontière, il voit mes tatouages. J'ai une pellicule de cinéma tatouée sur le bras. Direct, il me regarde dans les yeux. Il me fait, You have a drone. Non, je n'ai pas de drone du tout, moi. Qu'est-ce que tu racontes? Il fait, You have a drone, sir. Je fais, mais non, 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 c'est we check. Ok, on va checker. Je me lève, je marche. Puis là, je dis à mon pote, je fais ralentis-les, ralentis-les, je vais planquer le drone. Et donc, on est vraiment dans le couloir. Les motos sont en face de nous. Et là, mon pote, je sais plus ce qu'il fait. Il fait semblant de trébucher ou un truc comme ça, tu vois. Et moi, j'accélère le pas pour arriver à la moto. Je sors le drone de la valise. Les mecs sont à mes 5 mètres de moi. Hein. Je suis dans l'angle mort derrière la valise et tout. Et là, je reclaque la valise et j'ai le drone dans la main. Je suis face au gars. Et je fous le drone dans mon casque de moto. Parce que donc mon drone, c'est un Mavic Pro, donc c'est repliable. Et voilà, une fois replié, c'est assez compact. Et il est dans mon casque de moto. Et là, je fous mon sweatshirt dans le casque par-dessus le drone. Voilà, genre en mode ni vu ni connu. Et les gars commencent à faire le tour de la moto. Ils regardent toute la moto. Et là, ils voient la pochette du drone, avec la manette du drone. Le type, il est pas con non plus, quoi. Pochette de drone, une manette de drone, il y a des GoPros posés sur la moto. Le gars, c'est un jeune trentenaire avec une pellicule de cinéma. Il se dit, voilà, c'est pas un représentant de commerce, clairement. Il y a écrit blogueur sur le front, mais qui rayonne, quoi, tu vois. Et le gars, il fait, Where is the drone? Et là, je la joue en mode, bon, ils aiment pas les Pakistanais, on va leur donner du beurre. Je fais, bah, en fait, mon drone, je l'ai planté au Pakistan. Et vous savez comment ils sont, les Pakistanais, hein? C'est des salauds, ils m'ont pas laissé le récupérer. Et ils étaient genre ultra, ah oui, on est d'accord, on les aime pas non plus. Ah ouais, vous avez raison. Allez. Et les types, en gros, à un moment, ils étaient carrément accoudés contre mon casque, dans lequel il y avait le drone. Et il y en a un qui dit, There is something fishy. Ah, il y a un truc louche. Mais ils ont pas trouvé, quoi. Et là, on a eu de la chance, il y en a un qui a couvre le sac de Max, il tombe sur des capotes. Et le gars explose de rire. Voilà. Il avait 45 ans. Et donc, d'un seul coup, c'est bon, ça a changé leur attention. Ils étaient tous en train de regarder les préservatifs à se demander ce que c'était et tout, quoi. Alors, mon pote qui me dit, mais c'est la première fois qu'il voit des capotes. Moi, je lui réponds, bah, tu sais pourquoi ils sont 1 milliard maintenant.
Tu m'étonnes. Bon, du coup, ça va, ça s'est plutôt bien passé parce que des fois, c'est vrai, enfin, ça s'est bien passé, t'as eu du bol. Et c'est arrivé qu'une fois sur la quinzaine de pays, entre guillemets. Puis tu l'avais déjà pris avant en Amérique du Sud, le drone, ou t'avais jamais eu de problème avant
Non, non, en drone, mais en drone, je filmais pas mon voyage. Donc,
Ah oui, c'est vrai, effectivement.
c'était vraiment une grande première. En drone, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait quelques films sur mon voyage, filmé au téléphone, des petites scénettes, quoi. Et en fait, je tombais sur des gens qui avaient des drones et je leur demandais s'ils pouvaient pas m'envoyer par mail les plans de là où on était, quoi. Et les gens, ils étaient très sympas, ils disaient, ouais, pas de souci.
Pratique, pratique. Pour en revenir sur le voyage, il y a une question que j'ai oublié de te poser, c'est est-ce que du coup, au niveau des assurances, au niveau des vaccins, est-ce que vous étiez équipé, entre guillemets, vous vous aviez un peu préparé ou pas du tout?
Ah, mais visa mis à part, dis-toi, c'est comme si là, je toquais à ta porte et je te dis, bon, vas-y, prends des chaussettes, on y va. On n'était pas plus que ça. On est vraiment parti une main devant, une main derrière et go, quoi. C'est on n'avait pas de visa, pas d'assurance. Sans ton assurance, il y a un moment, j'allais dire, elle va pas pouvoir beaucoup t'aider, quoi. Enfin, c'est non, on n'avait rien.
Et c'est quelque chose que tu as regretté ou que tu, au final, pas du tout, ou à un
Ah.
moment dans le voyage, tu aurais pu dire, tiens, si on avait su, on aurait peut-être pris quelque chose pour se couvrir un peu, ça aurait fait une peut-être une preuve, peut-être à une douane, pour quelque chose, je
Non,
sais pas.
bah, c'est, tu sais, les assurances, quand ça se passe bien, tu te dis heureusement que j'en ai pas pris, et c'est quand ça se passe mal, tu te dis c'est con, j'en ai pas pris, quoi. Là, on a eu de la chance, tout s'est bien passé. Les moments où ma moto a été cassée, comme on peut le voir dans la série, bah, c'est une assurance m'aurait pas spécialement aidé, hein. Il m'aurait dit bah, ta moto, elle date des années 90, elle est en épave, tiens, prends 5 euros et rentre à la maison, quoi. À part ça, il me serait... Donc ça aurait rien changé au voyage en lui-même. J'aurais quand même dû me démerder sur place avec les moyens du bord pour la réparer et avoir des séquences cool du coup à montrer qui montrent la générosité des Iraniens et des Pakistanais. Donc non, non. Limite, tu vois, je serais plus enclin à prendre une assurance si je dois faire le tour de l'Europe ou le tour des États-Unis. Mais dans ces pays-là, fin fond de l'Afrique, fin fond du Moyen-Orient. Ça n'a pas beaucoup m'aider, quoi. Et les vaccins, il n'y en avait tout simplement aucun d'obligatoire, quoi. Il n'y a pas spécialement de maladie là-bas, quoi.
D'accord. Et par rapport à ton pote Maxime, on le voit lui aussi, il se filme face caméra. C'est quelque chose qui peut-être certainement était assez nouveau pour lui. Est-ce que c'est quelque chose que tu as briefé avec lui pour lui expliquer comment il devait faire? Parce qu'on voit vraiment, c'est des
Tout à fait.
plans-séquences qui se ressemblent. Comment vous organisez ça dans la journée? Parce que on voit qu'il se passe une action. Et toi, tu dis qu'au niveau du montage, bah, tu t'es un peu rappelé comment tu avais organisé tes séquences. Comment ça s'est organisé avec lui tout ça?
Alors, c'est très marrant ça, parce que moi je ne savais jamais à l'avance ce que disait Maxime, c'est au dérush que j'ai découvert ce qu'il disait. En fait, voilà, je lui ai dit, écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'une fois par semaine, alors bah, si c'était à refaire, je me dirais qu'on le ferait plus régulièrement, on va se caler dans un coin et on va faire comme sur Secret Story, comme sur Les Anges, voilà, un débrief de tout ce qu'on a fait, de tout ce qu'on a vécu. Et la consigne, c'était, je veux pas du factuel sur qu'est-ce qui nous arrive, parce que ça, on va le voir en image, il n'y a pas besoin de le raconter. Moi, je veux le ressenti, ce que l'image ne montre pas. Voilà, je veux savoir à quoi tu penses à ce moment-là. Et autant que faire se peut que tu me parles au présent de l'indicatif, parce que tu me dises pas, on a fait ci, on a fait ça, mais et là, on fait ci, et là, on fait ça. Comme ça, dans le montage, je peux bien l'inclure. Alors c'était pas facile. Alors pour moi c'était très intuitif parce que je monte des, enfin j'ai monté des émissions de télé-réalité, donc je vois bien le process. Pour lui c'était pas du tout intuitif, c'était très difficile au début. Les premiers il est même assez coincé, hein, ça se voit un peu dans les images, il est pas très à l'aise. Sur la fin, voilà, là ça devient le vrai Maxime que je connais. Il se décoince, bah comme tout le monde, hein. Tu t'habitues à la caméra, donc tu t'habitues à être filmé. Les premiers jours, même moi qui le filmais tout le temps, Ibrahim me disait, mais tu vas tout filmer comme ça? Et là, je disais, oui. Puis à la fin, bah, lui aussi prenait la caméra et commençait à filmer des trucs parce qu'il avait l'habitude d'avoir un objectif devant la gueule tout le temps et il se rendait compte que ça faisait partie du truc, quoi. Et finalement, tu vois, ces petits selfies qu'on se faisait, donc on appelait ça des selfies, ça s'organisait comme ça. On se mettait chacun dans un coin et on racontait notre vie tout seul face au téléphone. Et ça faisait du bien. C'est un peu comme un journal intime finalement. Donc, ouais, c'est ça, c'était comme un journal intime, ça permettait un peu de décompresser quoi, pendant ce voyage.
Et est-ce que pendant ce voyage-là, il y a des choses que t'as pas filmées, ou que t'as oublié de filmer, que tu dis, je suis passé à côté d'une super séquence ou d'un super souvenir, ou alors au contraire, non, est-ce que t'avais tout le temps avec toi le téléphone et que tu sentais qu'il y avait quelque chose à faire et tu le sortais à chaque fois?
Non, non, j'ai rien raté. J'ai peut-être
T'as rien
raté.
raté.
Un mec marrant qui était complètement fou en Slovénie, qui nous a fait taper une barre. Genre, le premier soir où on dort à la Belle Étoile, on tombe sur une espèce d'énergumène. Genre, un mec qui est arrivé qui nous a dit qu'on était en train de déranger les elfes, enfin, qui nous a fait un peu flipper parce qu'il débarque en plein milieu de la nuit, un vieux. Mais à part lui, non, parce qu'en fait, quand tu vois, c'est aussi le métier qui veut ça, c'est que quand tu sens qu'un truc arrive. Enfin, tu le sens arriver, quoi. Genre, il n'y a rien qui arrive par surprise. Waouh! Je te donne l'exemple de l'Iranienne. Quand je vois qu'il y a une petite minette iranienne et tout à qui je peux parler, bah ouais, je dégaine mon téléphone direct. La meuf, je la préviens. Je lui dis, ouais, je suis en train de faire un film sur mon voyage, ça te dérange? Et on se met à discuter, quoi. Genre, c'est pas complètement par surprise que je suis tombé sur elle. Et l'avantage aussi de filmer au téléphone, tu l'as toujours sur toi et t'as pas besoin de préparation, quoi. Je lève la main, j'appuie sur REC, bim, ça filme. C'est même si j'étais avec un 5D ou un appareil photo qui filme, ça aurait nécessité plus de préparation, plus de travail, et ça aurait impressionné plus les gens aussi. L'avantage du téléphone, les gens ne sont pas impressionnés. Tu peux sortir ton téléphone et filmer, et ils disent, ouais, pas de souci, vas-y.
Ouais, c'est vrai. On voit que tu l'as avec toi sur le dernier épisode, ton appareil photo surtout, où on voit même d'ailleurs quelques plans où tu t'en es servi. Ça me fait rebondir sur un truc, c'est que vis-à-vis de tout ça, quand sur ta moto, tu avais la GoPro du coup qui était fixée. Des moments, on a l'impression que tu filmes des choses qui sont impromptues. Je sais pas comment expliquer ça. On a l'impression que ta GoPro a filmé toute la journée et que t'as tombé sur un truc, tu vois. Et en fait, elle était allumée au bon moment. Il se passe un truc. Est-ce que c'est quelque chose que t'as vu avant que ça allait arriver et tu as appuyé sur le bouton REC, t'as enregistré parce que tu savais qu'il y avait une séquence qui allait arriver, ou alors t'avais déjà depuis un certain temps démarré l'enregistrement et c'est arrivé de façon,
Et
impromptue?
pareil, c'est les deux. C'est les deux. Il y a eu des moments. Il n'y a pas beaucoup de plans GoPro sur la longueur. Ça pèse assez lourd. Et moi, j'avais cette problématique de faut pas que j'ai trop de fichiers. Très souvent, même quand je voyais que j'avais oublié la GoPro et que j'avais un fichier de 5 Tera, pas 5 Tera, mais genre 5 Giga, je disais, vas-y, je l'efface, tant pis, j'en ferai un plus court. Mais non, c'est qu'en fait, des choses, entre guillemets, what the fuck, il y en a tout du long sur la route. Tu sais, si tu te dis, allez, je vais filmer 10 minutes. Et tu vas tomber, tu vois, dans ces endroits-là, je parle dans des pays comme le Pakistan ou l'Iran. Et quand je dis what the fuck, c'est pour nous qui, sur la route, à part des courtes pailles, il n'y a rien à voir, quoi. Mais là, tu auras toujours un dromadaire avec un enfant dessus qui est en train de tirer un chariot de canne à sucre. Voilà, bah ça, en fait, j'en ai vu 200, 300. Mais il y a bien un moment, je me dis, attends, je vais faire un joli plan où j'en filme un parce que je sais que ça va me faire une belle image, ça va caractériser le pays. En fait, on va sentir le pays juste avec une image. Et j'ai pas besoin, moi, au com, au texte, de dire, et là, un dromadaire, mec. Non, on s'en fout, on l'a vu en image, quoi. Ou pareil, des gens qui sont à 10 sur un camion ou un camion qui est surchargé. Il y en a partout, en fait, sur la route. Mais c'est le pays, en fait, il est comme ça, quoi.
Et t'avais des batteries de rechange ou le téléphone il arrivait à tenir toute la journée comme ça?
Et c'est la beauté du voyage en moto, c'est que
Ah oui.
le téléphone, je le charge pendant que je roule. Je crois que j'ai jamais eu autant de batterie de ma vie, hein, en vrai. Hein. C'est à Paris, je suis tout le temps en galère. Au fin fond du Pakistan, mon téléphone était full. Hein. C'est oui, j'ai un port USB sur la moto. J'ai deux choses. On avait un port USB sur la moto, chacun. Et sur la mienne, j'avais aussi installé un port allume-cigare. Comme ça, je pouvais recharger les batteries du drone directement. Et le compresseur pour les pneus de la moto aussi.
Et pour en revenir sur la moto, est-ce que tu as regretté d'avoir choisi un blouson qui t'a pas très bien protégé du froid et d'ailleurs qui a été particulièrement abîmé suite à une chute?
Mais alors ça, cette histoire de voyager avec un blouson Zara que j'ai dû payer 50 balles et qui est un blouson d'été, hein, on se le dit. Voilà, bah je crois que c'est la pire chose, la pire décision que j'ai faite de toute ma vie. Tu vois, c'est parce que donc faut dire aux gens, on est parti en automne, enfin, on est parti voilà vers octobre. Et la première moitié de notre voyage, c'était une course contre l'hiver. On avait, au sens littéral du terme, l'hiver qui arrivait. Le but, c'était d'atteindre l'Iran le plus vite possible pour pas être, un moment, tout simplement prisonnier. On n'aurait pas pu continuer le voyage sinon, parce qu'on allait devoir passer une chaîne montagneuse où les routes sont fermées. Et il y a 3 mètres de neige, voilà quoi, sur les territoires kurdes, qui est donc à la frontière entre l'Iran et la Turquie. Et c'était horrible parce qu'il faisait moins 5, moins 10 degrés. Et moi, j'avais juste une petite veste avec aucune épaisseur en sky. C'était l'enfer. Voilà, ça, ce serait la chose que j'aurais changée sur ce voyage. Un vrai gros blouson de motard bien chaud, quoi.
Ouais, effectivement, ça. Mais après, ça avait son style, hein. Faut dire aussi que ça avait son style. Mais par contre, c'est vrai qu'en termes d'efficacité, ça paraissait un peu précaire. D'ailleurs, est-ce que vous êtes tombé malade durant le voyage?
Oula, oui.
Oui.
Moi, j'ai chopé une grippe, mais une grippe de l'espace en Iran.
Est-ce que tu penses que le blouson a un rapport avec peut-être
Non, 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 j'ai une petite santé. Moi, j'ai assez régulier. Presque tous les ans, j'ai la grippe. Et mais là, du coup, j'étais tellement malade. Et là, les Iraniens sont exceptionnels. Et on était dans une auberge de jeunesse à Ispahan. Moi, j'avais 42 fièvres, j'étais allongé. Les meufs qui géraient l'auberge de jeunesse, elles avaient vidé ma chambre. De toute façon, je n'allais pas la refiler quand même à tous les clients, quoi. Et elles se relayaient pour tout le temps m'amener des petites soupes et tout, sachant que je ne faisais que dormir, en fait. Genre, je me réveillais. Maxime, je lui ai dit, bah, ça sert à rien que tu restes là, va visiter les villes autour, quoi. Moi, je vais juste être en train de caner ici. Et j'étais tellement malade, il y avait un médecin qui venait pour me faire des piquouses pendant que je dormais, genre en injection dans la fesse, quoi.
Ah oui.
Ah ouais, je pouvais même pas marcher, quoi. J'ai perdu je sais pas combien de kilos en une semaine. Et les Iraniennes qui se sont toutes occupées de moi, machin, moi j'arrive, je me réveille le matin, ah, il est où le médecin que je le paye quand même? Il s'est occupé de moi pendant que je dormais. Puis ils étaient, ah non, 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 c'était notre devoir et tout ça, ils ont tout payé pour moi. Et puis alors moi, je
Énorme.
propose, mais attendez, c'est pas... vous êtes gentil. Déjà que je vous prive d'une chambre et tout ça, oui, mais vous êtes malade. Enfin, voilà, impossible de les dédommager, quoi. Donc, juste les remercier, en fait, on ne pouvait rien faire d'autre.
Énorme.
Donc, on a eu
Énorme.
ça. Et puis, bon, les petites touristas habituelles, dès que tu traverses une frontière, ton estomac, il n'est plus habitué et tu te reprends la tourista la première semaine, quoi.
Et au niveau de la nourriture, du coup, dans les divers pays, est-ce que vous avez toujours bien mangé? Est-ce que vous avez été pressé de passer d'un pays à l'autre en espérant mieux manger parfois ou être déçu en vous disant que
Très bonne
ça allait être
question.
super, mais au final c'était dégueu?
Non, très bonne question. Bah, l'Iran, en fait, l'Iran, c'est marrant. Il y a le livre de Bouvier, comment ça s'appelle, L'origine du. Non, bref, il y a un bouquin où des mecs font à peu près le même voyage que nous, qui date des années 50, 60. Et les mecs arrivent en Iran et ils disent, ça y est, nous sommes en Iran, le pain est bon. Et c'est exactement ce qui nous est arrivé quand on est arrivé en Iran. On a croqué le pain, on a fait, mais le pain est bon? Genre. Ça y est, on est dans ce pays, quoi. Et le pain en Iran est exceptionnel, la bouffe était très bonne, mais on a passé plus d'un mois là-bas, c'était très monotone. En fait, tu manges tout le temps la même chose, c'est des grillades, il n'y a pas de plat en sauce, c'est du riz avec un peu de safran. Et il y a vraiment un moment où ça nous a tardé de se dire, vivement qu'on arrive au Pakistan, qu'on puisse manger du curry. Et ben, ça n'a pas manqué, on a traversé la frontière, premier mec qu'on rencontre, il nous propose une bière et un poulet au curry. Alors là, c'était magnifique, quoi.
Festin.
C'était, ah bah, la bière était tiède et dégueulasse. Le poulet au curry nous a filé à Tourista, mais ça reste un des meilleurs repas de ma vie.
Et à contrario, il y a des endroits où vous êtes passé, où vous avez très très mal mangé. Des pays peut-être qui n'ont pas une bonne réputation pour toi, pour la nourriture, où tu t'attendais pas à manger aussi mal.
Bah, si, bah, tout ce qui est Slovénie, Croatie, c'est pas des pays de gastronomie, hein. Ça, je le savais avant, quoi. Enfin, après, peut-être que je connais pas assez bien la nourriture croate, mais oui, non. C'est pas dégueu, c'est juste qu'il n'y a rien de spécial en fait. Enfin, c'est des pizzas, quoi. Après, la Turquie, c'est super bon. L'Iran, oui, l'Iran, le seul problème, c'est ça, c'est que c'est monotone, quoi. On mange un peu tout le temps la même chose. Il y a plein de pays comme ça où on a l'impression qu'ils ont un repas type et qu'ils n'en démordent pas. Bah, si tu connais l'Amérique du Sud. Si tu prends l'Amérique centrale, je sais pas moi, le Costa Rica, le Casado, c'est tous les repas, quoi.
T'as aussi un peu pareil, tu parlais de l'Indonésie, en
Oui.
Indonésie, le Nasi Goreng et tout,
Voilà.
c'est un peu tout le temps la même
Nasi
chose
Goreng,
aussi.
Nasi Kumpour, Nasi Goreng, Nasi Kumpour. Ah, c'est les
T'as
mecs qui
vite fait
mangent. Ils mangent bah, c'est pour gagner des points de vie, en fait, quoi. Il n'y a pas un art de la cuisine, un art de la table, quoi. Pakistan, la nourriture est dingue. La nourriture est extrêmement raffinée. Ça fait penser à la nourriture indienne en plus raffinée, la nourriture pakistanaise.
le tour. Et est-ce que du coup, tu parles du Pakistan, est-ce que durant votre voyage, il y a des moments où vous avez eu peur? Peur, je parle au sens large du terme, peur sur la route, peur vis-à-vis de certaines rencontres, de situations, vis-à-vis de certains pays où tu avais peut-être des appréhensions. Comment ça s'est passé ça?
Maxime était un peu plus inquiet que moi, il n'était pas terrorisé non plus, mais plus inquiet sur la question du Pakistan. Moi, ce n'était pas tant sur l'aspect sécurité que j'étais inquiet, parce que voilà, le Moyen-Orient, je connaissais déjà. Et comme avant, j'ai bossé dans une boîte de sécurité, je suis déjà allé en Afghanistan, je suis déjà allé au Yémen, enfin dans plein de pays en conflit, donc je vois à peu près comment ça se passe là-bas. Et c'était pas quelque chose qui m'alarmait, quoi. Je vois ce que c'est le process à avoir pour être dans de bonnes conditions. Non, non, la plus grosse peur qu'on a eue, c'est tout simplement au niveau de la conduite. C'était de conduire en Inde. C'est finalement au Pakistan, je vais être entouré de quatre mecs en Kalachnikov. Je vais me dire, bon, bah, de toute façon, tout le monde a une Kalachnikov ici, hein, tant pis. Alors qu'en Inde, je prends la moto juste pour aller acheter le pain. Je mettais ma vie en danger, mais c'est même pas une blague. Je pense même que j'ai jamais eu aussi peur de ma vie. Il y a des moments, des mecs, tu te dis, mais ils cherchent à me tuer ou quoi? C'est les gars, on va être sur une route à deux voies. Le type, il va doubler une voiture en face de toi et il t'arrive en plein dans la gueule. Et alors, ce qui se passe, c'est qu'il te klaxonne, alors que toi, tu es sur ta voie, tu es normal, quoi. Il te klaxonne pour dire bouge parce que sinon, je vais t'écraser. Et on a eu très peur là-bas. Et on a vu des morts hein, sur la route hein, là-bas. C'est pas tu vois des gens qui sont morts quand tu passes, c'est tu vois des gens mourir en temps réel. Tu vois un accident, puis tu te dis putain, ça aurait pu être moi, quoi.
Du coup, ouais, effectivement, ça me fait rebondir sur une question. Est-ce que, y a des moments qui t'ont plus marqué que d'autres durant ce voyage ou même durant tes voyages? Parce que, au sens large du terme, je pense que ça serait un podcast par anecdote, à mon avis, parce que tu dois en avoir beaucoup à raconter. Mais est-ce qu'il y a des moments, au moins durant ce voyage-là, qui t'ont plus marqué que d'autres, que ça soit positif ou négatif?
Alors, le moment sur celui-là qui m'aura le plus marqué, mais j'en ai eu les larmes aux yeux, hein, c'était notre rencontre avec le peuple pachtoune dans le nord du Pakistan. Donc, un peuple qui est à cheval entre l'Afghanistan et le Pakistan, c'était extrêmement touchant. En fait, ce qui se passe, c'est que pour la faire courte, c'est un peuple qui n'a connu que la guerre. Voilà, depuis les années 70, ils étaient en guerre contre les Soviétiques, ils ont été en guerre contre les Talibans, ils ont été en guerre contre tout le monde, les mecs, et ils ont été en guerre entre eux-mêmes. Et c'est une région qui est très enclavée, c'est dans les montagnes, c'est loin de tout, il n'y a pas de route pour y aller. En hiver, c'est l'Himalaya, hein, la montagne. Hein. Donc en hiver, ils sont sous 10 mètres de neige, ils n'ont plus accès au reste du monde pendant 6 mois. Et quand on est arrivé, eh ben, c'était la première fois que ces gens voyaient des Occidentaux depuis peut-être 20 ans. Et les enfants qui nous voyaient, ils se trouvaient ça fou. Ils n'avaient jamais vu d'occidentaux. Ils n'ont pas beaucoup la télé, ils n'ont pas grand-chose. Et alors que nous, enfin, là-bas, on a énormément de pouvoir d'achat comparé à eux, donc on est bien. Il y a ces gens qui arrivent et qui nous offraient plein de choses, tout le temps. C'était extrêmement gênant d'ailleurs. Et les mecs ont commencé à nous expliquer leur culture, à dire, non, non, mais attendez, un pachtoun, c'est quelqu'un qui invite quelqu'un chez lui. Si tu n'invites personne chez toi, c'est que tu as quelque chose à te reprocher, c'est que tu as quelque chose à cacher. T'es pas une bonne personne. Un pachtoun, ça offre aux autres. Sinon, ça veut dire que t'es pas un bon musulman parce que t'es pas foutu d'aider ton prochain, etc. Et en fait, ils étaient honorés qu'on vienne. Alors que c'était nous qui étions honorés d'être là. Mais non, eux, ils étaient honorés parce que pour eux, ça avait une signification. Ils disaient, vous avez fait tout ce chemin pour venir nous voir. Ça prouve que vous n'avez pas peur de nous. Ça prouve que pour vous, on n'est pas des terroristes. Qu'on est vraiment des humains et ça prouve que notre région, eh ben, elle a changé. C'est fini l'époque. On était grosso modo juste à côté de là où Ben Laden s'est fait arrêter. Voilà. Et eh ben, en gros, eux, ce qu'ils disaient, ils disaient, on n'est plus cette région-là, on n'est plus comme ça. Et de vous voir, c'est le départ d'un nouveau monde pour nous, d'une nouvelle vie, quoi. Alors que toi, t'es comme un couillon, t'es venu parce que tu voulais acheter une écharpe, on t'a invité là, t'es dit, bah vas-y, je fais un détour. Tu te rends pas compte de la portée que ça a pour eux, quoi. Et c'est pour ça que j'ai fait un épisode. Bah, consacrer juste à eux pour montrer comment sont ces gens et retranscrire ce que eux m'ont dit, quoi. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait autant d'épisodes sur le Pakistan pour montrer c'est quoi vraiment le Pakistan. Les gens, ils arrêtent la psychose de dire c'est un pays terroriste.
Clairement, oui, c'est une très belle carte postale pour le Pakistan. Surtout, on voit des rapports humains qui sont même, j'ai envie de te dire, qui sont même assez rares, voire même quasi inexistants, vers chez nous. C'est beaucoup de fraternité, d'enthousiasme, d'intérêt pour l'autre. Et ça, c'est très bien retranscrit et on a l'impression vraiment que c'est un peuple qui est très très accueillant, qui est pas trop gêné, entre guillemets, par un tourisme de masse qui pourrait un peu les faire changer peut-être d'attitude, mais en attendant, les rencontres que tu as fait à ce moment-là, que vous avez fait au Pakistan, ont l'air à chaque fois assez intenses en fait.
Ah mais tu as exactement résumé ça, c'est qu'en fait, il n'y a pas de tourisme de masse. Il y a un document qui s'appelle le NOC, c'est un document obligatoire quand tu es étranger au Pakistan. Quand on a pris le document, on a profité pour demander combien de personnes l'ont. Il n'y avait que 70 étrangers dans tout le pays quand on y était. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 270 millions de Pakistanais. Hein. Les gens ne se rendent pas compte, mais c'est très peuplé le Pakistan. Donc c'est-à-dire qu'il n'y avait que 70 étrangers. Et sur les 70, tu en as 50, c'est des Chinois qui sont des entrepreneurs venus pour fabriquer les autoroutes. Hein. Donc oui, ils ne sont pas l'habitude de voir des étrangers. Et ils sont très contents quand il y a des étrangers de pouvoir leur montrer bah, leur culture, leur hospitalité, et aussi leur montrer, mais non, on n'est pas un pays dangereux, quoi. Il y a des terroristes au Pakistan, ça oui. Mais sauf que les premières victimes des terroristes au Pakistan, c'est les Pakistanais.
Mais
Et
et
dans
du coup
certaines régions.
D'ailleurs, dans un des épisodes, il y a cette rencontre où vous êtes avec des jeunes pakistanais, vous êtes en train de boire un verre autour d'une table. Il y a beaucoup d'intérêt, de questionnement vis-à-vis des coutumes, vis-à-vis de le rapport à l'amour, à tout ça. C'est très intéressant. Franchement, je recommande vraiment, je vous souhaite vraiment à tous de suivre tous ces épisodes parce que voilà, il y a même un jeu qui s'installe entre vous sur les questions-réponses. On voit même un des jeunes qui lui aussi a son téléphone comme toi, qui est en train de filmer pareil. Il y a vraiment cette espèce de côté un peu éponge. Et puis, il y a aussi en face quelqu'un qui parle assez bien anglais pour un petit peu retranscrire les attitudes et les réponses de chacun. Franchement, c'est top. Je vais pas m'attarder dessus, il faut vraiment laisser la surprise.
Mais les Pakistanais, c'est ça aussi qui est très drôle, c'est que c'est un peuple qui est très éduqué. Enfin, éduqué au sens scolaire, hein, j'entends.
Instruit, ouais.
Et oui, très instruit, voilà. C'est assez social en fait comme politique. Et comme c'est une ancienne colonie anglaise, et ben paradoxalement, ça parlait plutôt très bien anglais au Pakistan. On n'avait jamais de problème à trouver un locuteur anglais pour avoir des échanges vraiment construits et nourris, quoi.
Et du coup, pour rebondir sur ma question du départ, au niveau des pires souvenirs, est-ce qu'il y a un moment que tu as détesté de ce voyage ou que tu aurais voulu ne pas vivre, à part peut-être la grippe ou une chute à moto, mais ou peut-être dans les rencontres, est-ce qu'il y a quelque chose que tu as retrouvé un peu regrettable ou pas?
Non, pas vraiment. Non, y a rien de. Il y a eu des moments d'ennui, tu vois, parce qu'il y a des moments où, à cause d'une connerie, genre, je sais pas, moi, je casse mon écran de téléphone, donc on reste bloqué dans une ville 3 jours, tu vois. C'est des petits trucs comme ça. Mais non, il n'y avait pas de vraiment de mauvais souvenirs. On a été assez chanceux, quoi. Après, ça va être les tracas du quotidien. C'est oui, bah, quand tu es sur une moto, il fait moins 10 degrés, et puis tu es avec une veste en sky, t'es pas heureux, quoi. Mais c'est vraiment une douleur. Mais non, tu sais, il y a toujours un truc que je dis, moi, quand tu souris aux gens, c'est difficile pour eux d'être des connards avec toi. Donc moi, j'arrive, je fais tout le temps ma petite tête de bonnet, avec mes grands yeux bleus et mon sourire qui va jusqu'aux oreilles, et les gens sont assez cool avec moi, mais partout, en fait. C'est genre, je peux même te le dire sur 15 ans de voyage. J'ai 15 ans de voyage, j'ai eu 15 ans d'aide. C'est, tu vois, depuis que je suis rentré en France, je me suis acheté une moto que je me suis fait voler et je me suis fait voler 3 Top Case. Bah voilà, en
Ah oui.
15 ans de voyage, je me suis jamais rien fait voler.
Bienvenue en France.
Donc
Et ah oui, il y a eu de mémoire, je crois, il y a eu une rencontre que t'as. Je sais pas si elle est regrettable, mais j'aimerais avoir ton avis là-dessus. C'est en Inde, la rencontre du jeune qui veut t'emmener manger chez lui.
Alors oui, bah voilà, ça c'est ça le truc qui est un peu regrettable, mais en vrai ça nous a plus amusé qu'autre chose parce qu'on a entre guillemets pris les paris avec Maxime que ça allait nous arriver. C'est oui, c'est quand t'arrives en Inde ou dans tous les pays qui sont massivement touristiques, bah le fait que voilà, quand tu parles à un mec, ça y est, t'es blanc, t'es un carnet de chèques, c'est comment est-ce que je vais lui gratter une pièce? Et en vrai, tu vois, c'est même pas tant pour la somme en elle-même parce que bon, tu vas perdre combien? 1 euro, c'est pas grave ça. Mais c'est le fait qu'il n'y ait plus d'échanges naturels. Voilà. Il n'y a plus de vrais échanges. Alors qu'au Pakistan, quand les gens venaient pour dire t'as un problème, t'étais toujours non, non, tout va bien ou oui, merci, tu peux m'aider. En Inde, un mec dit t'as un problème, même si t'as un problème, t'as envie de l'envoyer chier parce que t'as envie de dire non, mais c'est bon, lâche-moi. Genre, j'ai pas le time, quoi. Genre, il y a un moment. Et en Inde, c'est vrai que ça, c'était pesant. Et surtout, c'est pour ça que j'ai rien filmé à Goa. C'est quand on est arrivé à Dogoa, qui est une station balnéaire. Il n'y avait plus aucun intérêt, en fait. C'était pas le voyage qu'on est venu chercher, quoi.
D'ailleurs, c'est la fin du reportage. Ça se termine là. On voit un plan en drone, station balnéaire. Et là, on sent aussi peut-être, tu vas peut-être me le confirmer, mais il y a peut-être aussi une fatigue du voyage qui s'est peut-être installée, où à la fin, tu avais peut-être moins envie de filmer, tu avais peut-être plus envie de te poser et de profiter peut-être du lieu et.
Oui, c'était même au-delà de ça. Alors, il y avait une fatigue, hein, clairement. Hein. Les gens, faut voilà, s'il y en a qui veulent partir 6 mois en moto ou faire un voyage, faut qu'ils soient prêts physiquement. C'est éreintant. Et j'ai plutôt une bonne constitution. Mon pote est très sportif. On était des locs à la fin. Il y a un plan là en Inde où je suis torse nu, je vais dans le Gange.
Je regardais ça, je disais, bah dis donc, j'ai perdu, je sais pas combien, quoi. Genre, t'as plus de muscles, t'es épuisé. Ça te massacre, en fait, ces voyages-là. Faire de la moto tous les jours, pendant des heures, t'as le vent, t'as le froid, t'as les changements de température, t'as le dos, t'as les fesses, t'as tout, ça te détruit. Mais à Goa, c'était pas tant à cause de la fatigue, hein, qu'on n'a pas filmé, c'est juste qu'il n'y avait plus rien à raconter, en fait. C'est bon, on a réussi, on est jusqu'en Inde, on va raconter quoi? Bah, en fait, à Goa, on va faire un vlog. On va se montrer les doigts de pied en éventail à boire des pina coladas sur la plage, quoi. Mais on n'a pas eu spécialement ni d'échange, ni quoi que ce soit, quoi.
Et en plus, vous étiez en Inde à une période très particulière où tous les 12 ans, il y a une fête incroyable où il y avait 150 millions de personnes qui se
Ça,
réunissaient.
c'est exceptionnel.
Est-ce que toi, t'as vécu, parce qu'en fait, bon là, je parle aux agoraphobes qui peuvent écouter, comment ça se passe quand t'as autant de personnes tout le temps autour de toi, qu'en plus de ça, en plus, t'es allé au bout du délire, t'es allé carrément dans le Gange pour aller vraiment faire comme les Indiens. Comment ça se passe? Comment tu vis ce moment-là?
En fait, c'est incroyable. Déjà, quand tu regardes ça, quand t'es là-bas, tu dis là, en fait, il y a 150 millions de personnes au même endroit. T'as une peur, mais même pas une peur, toi, dans ta tête. T'as une peur à moitié civilisationnelle à te dire, bon, nous, l'Occident, clairement, on a perdu. Genre, voilà. En France, quand tu te dis que pour faire un hôpital de campagne où on doit monter 10 tentes, ça nous prend 3 semaines, et que les mecs, ils te font une infrastructure pour accueillir 150 millions de personnes et que ça marche super bien. C'est ça qui est dingue. Les mecs, ils ont fait, mais ils ont alimenté une centrale électrique exprès, deux centrales électriques exprès pour ça. Ils ont fabriqué 15 ponts sur le Gange. Mais c'est rien que ça, c'est dingue à voir. Rien que, pense, 150 millions de personnes, il faut bien faire des toilettes. Rien que ça, tu vois, c'est simple. Mais tu dis, ils ont dû construire des millions de toilettes. Genre, peut-être, je sais plus combien, genre 700 000 toilettes. Et là, tu te dis, ah ouais, là, quand même, il y a un autre monde dont on parle pas. Hein. En France, on dit, ouais, c'est un Indien, il vend des roses, machin. Non, non, c'est un Indien. Le mec, il bosse et il est en train de fabriquer un empire. Et là, tu vois ça. Et là, tu te dis, ah bah, faut qu'on se tienne prêt parce que bientôt, c'est nous qui les verrons arriver à Paris à leur demander s'ils veulent pas monter dans le taxi comme eux demandent les tuk-tuks aujourd'hui, quoi. Tu vois, tu vois vraiment un changement dans le monde. C'est assez dingue. Et après, bah, gérer, en fait, finalement, les 150 millions de personnes, c'est juste que tu as l'impression d'être à la fête de l'humain. Voilà, quoi. Il y a plein de gens autour de toi, mais tu ne les vois pas autour de toi en simultané. Les 150 millions, tu es tout le temps dans une foule, en fait. Alors, c'est épuisant parce que comme tu es le seul blanc, bah, il y a tout le monde qui vient te voir pour te prendre en photo, pour te poser des questions, plein de choses comme ça. Et ça peut être... Donc, faut toujours être très patient parce que ce qui se passe, c'est que tu as 100 mecs qui viennent te prendre en photo. Le 101e, tu es peut-être saoulé. Bah, tu n'as pas à lui parler mal parce que pour lui, il est le premier. Tu vois ce que je veux dire? C'est enfin, comme une star dans la rue qui fait prendre en photo tout le temps, bah voilà, toi, si la star te parle mal, tu vas dire, c'est un connard. Bah non, c'est que t'es le 101e qui vient. Donc, il y a juste ce côté-là. Mais après, non, c'était plutôt impressionnant de voir ça. En fait, je savais même pas que l'être humain était capable de s'organiser de cette façon, quoi.
Ouais, c'est ouf, hein. Franchement, même vis-à-vis des images que tu as tournées, moi j'avais déjà vu à l'époque sur Canal+, il y avait les nouveaux explorateurs qui avaient fait un reportage dessus qui était assez incroyable. Mais c'était pas la fête des 150 millions, c'était déjà, je sais plus, 40 ou 50 ou
Oui, voilà,
60
en fait,
millions
tous les
déjà.
6 ans, en fait, il y en a une grosse tous les 12 et une autre tous les 6 où ils sont un peu moins nombreux. Mais non, et puis il y a autre chose qui était par contre, donc au-delà de l'aspect impressionnant du gigantisme, il y avait un truc qui était bouleversant, c'est que c'est quand même une fête religieuse. Donc tu es dans un pays, les gens sont pauvres, hein, les gens sont pauvres à la race en Inde, et ben ils ont rien, ils ont traversé tout le pays à pied, en stop, en galérant, en mettant toutes leurs économies pour se baigner dans le Gange à cet endroit-là. Et en fait, ça te fait vraiment quelque chose, tu vois. Genre, alors moi, je suis pas religieux, et puis a fortiori, je suis pas hindouiste. Mais de voir ça, c'était très impressionnant de voir cette ferveur. Et c'était aussi assez douloureux parce qu'il y a plein de gens qui vont là-bas, donc qui sont pauvres. Mais en Inde, c'est pas de la pauvreté. En Inde, c'est de la misère. Donc t'as des lépreux, t'as des gens qui ont des moignons, qui ont la gangrène, qui vont mourir. Hein. En fait, tu vois, il y a des cadavres aussi. Hein. Il y a des cadavres en direct, ils sont devant toi. Il y a toutes ces choses-là qui sont tous réunis là-bas, et ça fait beaucoup pour les yeux d'un Européen assez protégé, tu vois. Moi, je suis parisien. C'est quoi la misère à Paris, quoi? C'est un mec qui lève la main au coin de la rue. Ça reste soft, on va dire, tu vois. Et là, ça fait quand même beaucoup de choses d'un coup, et c'est ultra impressionnant de voir ces gens qui disent, bah, si je vais là-bas et si je vais dans le Gange à cet endroit-là, eh ben, ma vie sera mieux. Et ben voilà, j'ai traversé un pays de 10 000 km pour faire ça, quoi.
C'est ouf, hein. Comme tu le dis, c'est vrai que c'est pas la même chose que ce que nous on peut voir dans notre quotidien, même si c'est d'autres formes de violence. Mais d'ailleurs, l'Inde est réputée pour créer aussi des réactions disproportionnées pour les Occidentaux qui sont pas préparés, parce qu'il y a du bruit tout le temps, il y a de la misère, il y a des odeurs, il y a une effervescence qui peut faire péter les plombs à certaines personnes qui sont rapatriées des fois, enfin.
Eh oui. Tous tes sens sont en alerte en Inde. Hein. Maxime le dit dans un épisode. Enfin, il le dit pour le Pakistan, mais les deux pays se ressemblent pas mal. Tous tes sens sont en alerte. On n'a pas l'habitude. La France, c'est calme. Hein. C'est très silencieux, la France, finalement. La France, ton voisin fait du bruit, tu râles. Là-bas, le voisin, il vient, il fait du bruit dans ton salon. Hein. C'est normal, quoi.
Ouais, c'est normal, ouais. Et est-ce qu'il y a un pays qui t'a pas forcément dans ce voyage-là, mais un pays qui t'a chamboulé parmi tous les pays que t'as pu faire? Est-ce qu'il y a un pays qui t'a marqué et qui t'a peut-être changé ou qui t'a fait prendre conscience de certaines choses?
Un pays qui... bah, le Pakistan, ça a vraiment été une claque, hein. C'était vraiment intense. Là, je saurais pas dire. Ça dépend, en fait. Il y a plein de moments dans la vie. Ah bah si, non, si, la Somalie. La Somalie, c'est un pays qui m'avait... Voilà. Après, pour plein de raisons, hein, parce que moi, j'étais en Somalie. À l'époque, il n'y avait pas eu encore le changement de gouvernement, donc on était en pleine période de guerre. Et je pense que c'est un peu le moment de ma vie où je suis devenu un mec très peace, très calme, quoi. J'étais arrivé là-bas, je devais avoir 22, 23 ans, quoi. Petit gars nerveux français qui veut faire des concours en mode qui est la plus grosse. Et puis en fait, c'est là où j'ai vu ce que c'était la violence. J'ai vu ce que c'était une vie de merde. Et depuis ce jour-là, je suis rentré en France et je me suis dit, on n'est pas les plus à plaindre. Et c'est devenu un peu un mantra chez moi. Genre, dès qu'il m'arrive une merde, dès qu'il m'arrive un truc, je fais, ça va, c'est pas grave. Je pense que c'est même le pays qui m'a appris à sourire. Parce que quand t'es en Somalie, que tu vois des gens, ils ont 25 ans d'espérance de vie, la meuf, elle est en train de faire une fausse couche dans la rue, et il y a même personne qui se retourne parce que c'est normal. Et que t'as des gars qui ont des ténias, ils sont tellement maigres que le ténia leur ronge le cerveau. Et que malgré tout, au milieu de ça, t'as des gens qui sourient, et plus jamais tu tires la gueule. Tu vois? Dit, mais non, je n'ai pas le droit. Et voilà, et en fait, ça m'a fait un peu tout prendre avec philosophie, quoi. Alors, de voir ça, quoi. Et c'est, tu vois, il y a plein de gens, c'est parce qu'ils ont vu des actes de bonté, des actes de gentillesse, des actes de générosité. J'en ai vraiment pas vu là-bas. C'est ça y est, quand on y était, on avait vraiment atteint un stade de non-retour de l'espèce humaine, tu vois, de dire, ah ouais, d'accord, en fait, on en est là, c'est Mad Max, en fait, le pays. Et de se dire, et ben malgré tout, les gens, ils continuent de vivre. Bah, en fait, après, où que t'ailles, tu te dis, mais je suis trop bien, en fait. Tu vois. Et c'est ça qui fait du bien dans le fait de voyager. C'est que t'apprends des cultures, t'apprends de plein de choses, mais t'apprends aussi sur toi, quoi.
Oui, surtout.
Et t'évolues. Donc, c'est une expérience très douloureuse, surtout que j'étais quand même jeune, quoi. Mais je pense que ça m'a fait beaucoup de bien aujourd'hui, parce que, par exemple, aujourd'hui, les gens, il y a un truc qui est unanime, ils disent tous, pour énerver Morgane, enfin, genre, c'est pas comment c'est possible, quoi, tu vois.
Parce qu'en fait, toi, t'es passé par l'extrême et un extrême t'amène à avoir une ouverture d'esprit. C'est vrai que, comme tu dis, c'est vrai que quand tu vas dans d'autres pays où il y a des actes de bonté, comme tu dis, de l'échange, de l'ouverture, des sourires, des choses qu'on voit peut-être beaucoup moins chez nous. Ça peut te donner des idées en disant, au final, c'est peut-être eux qui ont raison. Toi, en fin de compte, c'est parce que tu as vu vraiment ce qu'il y avait peut-être de pire à voir, à vivre, à ressentir, que ça t'a mis une espèce de... Tu as eu une limite tellement basse, en fait, que du coup, toi, ça peut être qu'au-dessus. Tout ce que tu vas vivre après ne peut être qu'au-dessus de ça. Et effectivement, alors, je conseillerais pas forcément aux gens d'aller dans une zone de guerre pour s'en rendre compte,
Non, non, bien sûr,
mais...
il n'y a pas besoin de faire ça, quoi. Non, mais ça t'apprend l'empathie surtout. Pour moi, le but des voyages, c'est l'empathie. c'est il y a un moment aussi d'avoir autant voyagé, d'être allé dans des pays qui ont des coutumes et des cultures qui n'ont rien à voir avec la mienne. Tu vois, genre par exemple, dans ce truc, il y a plein de mecs qui m'ont demandé, t'es musulman? Parce que j'arrêtais pas de dire à quel point, bah, via la culture musulmane, ces gens étaient sympas à suite à Ah non, je suis pas musulman. En plus, dans ma série, je crois qu'on me voit boire dans presque chaque épisode. Je crois que dans tous les épisodes, je vais me dire. Mais à force de voyager, tu te dis, tiens, ici, ils pensent comme ça. D'accord, ils pensent comme ça. Bon, bah, je suis tout seul dans le pays. Ils sont tous à penser comme ça. Donc là, maintenant, l'étranger, c'est moi. Qu'est-ce qui fait qu'ils pensent comme ça dans ce pays? Et puis, a fortiori, c'est pas eux qui pensent mal. Mais c'est pas moi non plus. Donc en gros, c'est ça qui est bien avec le fait de voyager, c'est que tu te dis, bon, bah, pourquoi les gens pensent comme ça? Et après, c'est une expérience que tu rapportes en France quand tu reviens et que tu discutes avec quelqu'un. À chaque fois, je me demande, mais pourquoi cette personne pense comme ça? Tu vois, même quand je suis pas d'accord avec quelqu'un, quoi, je me dis, tiens. Et c'est ça qui est génial dans le voyage. Le voyage, ça t'oblige à l'empathie, ça t'oblige à comprendre l'autre, ça t'oblige, enfin, c'est pour ça que quand les gens voyagent, je les encourage à prendre les petits chemins, les voies détournées, d'aller dans les bleds, et d'essayer de rencontrer les gens qui sont les plus opposés à eux, justement. C'est ça qui est intéressant, quoi.
Le choc des cultures.
Tu les vois, les petits jeunes, tu parlais des petits jeunes pakistanais, c'est quand même génial de tomber sur des petits jeunes. Et je leur ai posé la question, tu vois, je leur dis, elles sont où vos sœurs? Et j'ai fait, la conversation est beaucoup plus longue. Je leur demande, mais là, vos sœurs, elles seraient avec nous? C'est des jeunes, ils sont instruits, c'est la haute société pakistanaise, quoi. Ils sont occidentalisés un peu. Je fais, vos sœurs seraient avec nous, ce serait pas acceptable. Puis ils étaient, ah bah non, 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 non. Ils ont 16 ans, les mecs, tu vois, c'est des jeunes. Je fais, mais pourquoi? Ils me disent, parce qu'elles doivent rester à la maison, c'est important. Et je vais pas les condamner. Moi, je suis contre ça, bien sûr, je suis français. Donc pour moi, une femme, c'est l'égal de l'homme et tout. Mais au contraire, je leur pose la question pour comprendre pourquoi est-ce que eux, ils pensent comme ça. Je vais pas les changer, c'est pas mon but. Hein, mais savoir, ben, ça se passe comment au Pakistan. Et c'est très intéressant de voir comment ça se passe.
Mais clairement. Mais il faut vraiment suivre ces vidéos, ou même quand ils réparent ta moto, ou ils en font une moto un peu à la Mad Max et tout. Pareil, enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails pour pas tout spoil, mais où le gars, à un moment, t'as ta chaîne qui a rongé, enfin bref, tu as une pièce à changer, le mec, il cherche pas à comprendre, il te refait la pièce, et il te dit c'est gratuit. Enfin, il y a beaucoup de choses qui passent. Et en fin de compte, tu vois que ça oppose des cultures, des réactions, des façons de faire qu'on fait nous peut-être sans s'en rendre compte, où on s'attend à des réactions type combien ça va me coûter, etc. Et là, tu arrives avec d'autres cultures, d'autres façons de penser, d'autres systèmes, et tu te dis en fin de compte, non, ça marche pas comme ça marche ailleurs, et ça rend les choses encore plus intéressantes. Donc comme tu dis, effectivement, la rencontre de l'autre, surtout à l'opposé, peut-être que bénéfique. Et du coup, il y a une question que je pose tout le temps vers la fin du podcast, et que je vais te poser, et je suis intéressé de savoir ce que tu vas dire. Pour toi, c'est quoi la définition de la liberté?
Alors, la définition de la liberté. Parce que oui, je pourrais te dire quelque chose d'assez bateau, c'est quand on n'a plus de contraintes. Mais en fait, en vrai, c'est ça. Hein. La définition de la liberté.
Ta définition à toi.
Bah, en fait, c'est que moi, ma vie, elle est très simple. Hein. J'estime que je suis quelqu'un de très libre. À savoir que bon, déjà financièrement, j'ai pas de crédit, j'ai pas de CDI, j'ai pas d'emploi fixe. Je travaille, j'ai de l'argent, je travaille pas, j'en ai pas, mais j'ai des comptes à rendre à personne. J'ai pas de charges. En France, j'habite dans une chambre de bonne, elle fait 9 mètres carrés, et toutes mes possessions, c'est un matelas posé à même le sol et deux sacs à dos avec des fringues dedans. C'est voilà. Là, je viens de te faire vraiment la liste. Tout ce que je possède peut tenir dans ces deux sacs à dos. Et non, si j'ai une télé écran plat. Voilà. Voilà, comme ça, on a
Plus
vraiment ce
difficile à...
garde. On nous écoute. Donc, en fait, je m'estime, j'ai pas d'enfant. Enfin, en tout cas, pas que je sache. J'ai pas de chien, je suis heureux. Alors, j'ai aucune certitude sur l'avenir. À la fin de chaque mois, je suis pas sûr de comment sera le mois prochain. Mais par contre, bah, je fais ce que je veux. et j'ai des comptes à rendre à personne. Et ça, c'est un repos de, enfin, pour moi, hein, je trouve que c'est un repos, tu vois. Et je pense que la liberté, c'est propre à chacun parce que moi, c'est ça qui me repose. Et ben voilà, il y en aura d'autres. D'être reposé, c'est de savoir que tous les mois, ils vont avoir la même paye et qu'ils vont avoir une routine. Et c'est un truc qui est complètement différent, mais eux, et ben, ils vont se sentir libres de cette façon-là, quoi. Alors après, je sais pas si c'est la définition de la liberté ou du bonheur, mais ce serait ça, ouais. La liberté, c'est pas de compte à rendre et un repos.
Parfait, très bien. Et qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut faire comme toi, enfin comme vous peut-être, ou du moins voilà, voyager à long terme ou partir en moto jusqu'en Inde ou quoi? Qu'est-ce que tu conseillerais à quelqu'un qui veut marcher dans tes pas, si je puis dire?
Alors, deux choses. C'est d'ailleurs deux choses, mais en plus c'est drôle, c'est les critiques qu'on m'envoie souvent sur mes vidéos. À savoir, parfois dans mes vidéos, on dit souvent je suis pas ouvert. Parce que je fais des blagues. Je fais, ah bon, putain, si moi je suis pas ouvert, la vache. Mais bon, apparemment les gens ils aiment pas quand on fait des blagues. Il faut être ouvert et confiant. Faut pas se dire que parce que on est dans une situation compliquée et que quelqu'un arrive, ça sent mauvais. Non, il faut faire confiance. C'est la clé. Tu fais confiance aux gens. Tu te dis que le local, a priori, il sait comment ça se passe chez lui. Il faut être confiant aussi dans le fait de se dire si des gens habitent là, c'est qu'il y a moyen d'habiter là. Donc faut pas avoir peur de se dire et si je tombe en panne, et si je suis malade, et si voilà, sur place des gens tombent en panne, des gens sont malades, sur place il y a à manger parce qu'il y a des gens, enfin voilà, il y a toujours une solution. Faut jamais se demander quels sont les problèmes, faut se demander comment je vais trouver une solution. Voilà, donc la confiance. Mais une confiance raisonnée. Voilà. Ça va paraître très couillon, mais le fait de voyager, ça m'a fait aussi prendre conscience que on n'est pas égaux, on n'est pas pareil, on est tous différents. Sur mes vidéos, par exemple, il y a un noir qui m'a demandé, moi qui suis noir, est-ce que je pourrais faire ton voyage? Je lui ai dit oui. Mais, bah, tu le sais bien, mec, déjà d'être noir en France, c'est compliqué. Noir en Inde, les gens vont pas être racistes à te jeter des pierres, mais ils vont être très curieux et ça va être parfois gênant. Tu vois, nous, parfois, ils s'approchaient, ils nous approchaient, enfin, ils nous regardaient tous. Voilà, je connais mon ancien patron qui est noir, il était en Inde, il me disait, les gens venaient me toucher. Donc, il y a un truc où il faut se dire, voilà, on n'est pas égaux. Quand on est une femme, c'est pas aussi facile que pour un homme, de se faire accepter. Quand on est, pareil, si on n'est pas gaulé, si on est un mec un peu maigrelet avec une bonne tête de Babtou, faut faire très attention parce que on peut être une cible. Donc voilà, faut être raisonné et faut complètement abandonner le concept très français de on est tous pareils, on est tous égaux et peu importe, rien ne peut nous arriver. C'est pas parce que tu croises un voyageur qui revient d'une région et qui te dit c'est super cool que toi dans ta tête tu dois dire ah bah j'y vais aussi. Donc voilà, faut se connaître, faut faire le point, savoir qu'est-ce qu'on est capable de faire, qu'est-ce qu'on n'est pas capable de faire, qui on est et qu'est-ce qu'on représente dans tel pays. Clairement, tu vas en Iran, si tu es juif, ne te balade pas avec ton étoile de David autour du cou. Voilà, c'est un pays où vaut mieux faire profil bas à ce niveau-là. Et on n'est pas là pour changer toute une civilisation. Donc on est toujours invité dans ces pays. Donc voilà, donc on fait confiance, mais de façon raisonnée, on sait qui on est, on sait ce qu'on peut se permettre de dire, de faire. Tu vois, sur les conversations que j'ai, je me permettais de plein de débats sur plein de sujets. Il y avait des sujets où je me disais, bon, là, je vais y aller à tâtons, voilà, et doucement. Et parce que surtout, c'est que dans plein de pays, ils sont sûrs, mais on n'est pas protégés. C'est pas comme la France où dès qu'il nous arrive un truc, on aura quelqu'un pour venir nous aider. Donc voilà.
Très bien. Mais au moins, le message est clair. Deux très bons points à prendre en considération. Quels sont tes projets pour la suite? Et comment tu vis le confinement? Enfin, les confinements. Comment t'as vécu tout ça?
Très mal, excessivement mal. En fait, je devais partir, je devais refaire un voyage en juin dernier qui est mis entre parenthèses, à savoir que j'ai pour but de faire la route la plus longue du monde. Alors, je pense que les gens qui écoutent doivent voir de quel je parle parce qu'il y a eu plein d'articles sur cette route. C'est partir de Magadan en Russie, donc vraiment à l'autre bout du monde, et descendre jusqu'en Afrique du Sud. Et je comptais faire tout ça en moto. Et je devais partir en juin dernier, sauf que confinement, j'ai pas pu partir. Pandémie mondiale, je sais pas quand est-ce que je pourrais partir parce que demain les frontières sont fermées, mais surtout j'ai pas envie de voyager si derrière je peux pas aller parler aux gens parce qu'ils ont tous peur des uns des autres et qu'ils veulent pas avoir un étranger chez eux, bien sûr. Ça a pas d'intérêt, quoi. Tu retires un pan essentiel du voyage. Voilà, donc ce sera ça le prochain projet, mais je sais pas quand est-ce que je pourrais le mener à bien. Et le confinement, comme tout le monde, quoi. C'est le premier confinement, j'étais enfermé dans mon 9 mètres carrés à Paris. J'étais pas au top. J'étais pas au top. Et je pense, comme tout le monde, je sens une morosité et un ennui, surtout du fait de rien pouvoir faire. Comme on dit, on n'est pas les plus à plaindre.
Effectivement. Et pour ce voyage que tu comptais faire, c'était avec la même moto ou une autre moto?
Ma moto, ma post-itine, elle commence à être en fin de vie. Donc non, j'aurais essayé de trouver une autre moto. J'aurais vu. Et
Et t'aurais fait
celui-là,
ce voyage tout seul?
mais en mieux même.
Tu l'aurais fait seul ce voyage ou c'était prévu de le faire à plusieurs?
Je ne sais pas encore. Je sais pas encore, parce que Maxime, lui, il a repris sa vie et puis il peut pas se permettre non plus de partir tout le temps. Mais toutes les voies sont ouvertes.
Parfait. Où est-ce qu'on peut te suivre? On peut suivre tes aventures.
Alors, comme tu l'as dit, sur YouTube, où il y a cette série La Route de la Soie, et où je posterai les prochains trucs, parce que oui, j'ai aussi quelques petites idées, peut-être des trucs en Amérique du Sud où on m'a invité à faire de la moto, un peu en Afrique et tout, et où du coup il y aura sûrement ma prochaine série. Et sur mon Instagram, Capitaine Morgan, où là il y a des photos beaucoup plus larges, parce que là ça regroupe, j'ai fait, je sais plus, on avait compté l'autre fois, c'était 100, 110 pays, quelque chose comme ça. Donc ça regroupe un peu toutes ces aventures-là.
Ben super. Bon, en tout cas, moi, je vous encourage à suivre Morgane. Je mettrai les liens dans la description du podcast, aussi bien pour la chaîne YouTube que pour l'Instagram. Regardez ses stories Instagram, elles sont très bien, elles sont très drôles. Pas toujours d'ailleurs, il y a aussi des stories qui sont assez réfléchies. Bref, je t'en dis pas plus. Moi, je voudrais te remercier pour le temps que tu m'as accordé pour ce podcast. C'était très intéressant, très enrichissant. Ça m'a donné vachement envie d'aller voir ces coins que je connais pas. Et je pense qu'on doit être pas mal à avoir eu envie de peut-être prendre une bécane, un de ces quatre, et de partir à l'aventure. En tout cas, merci beaucoup. Et pourquoi pas un prochain épisode après cette grande aventure que tu prépares, pourquoi pas.
Ah bah,
En
il
tout cas,
sert.
moi, je serais ravi de suivre tes aventures. Mais écoute, je te remercie beaucoup.
Allez, bonne journée. Salut.
Et c'est ainsi que se termine ce 13e épisode de Courant Libre. J'espère que vous avez passé un super moment à écouter ce podcast, tout comme moi j'ai pu passer un agréable moment avec Morgane lors de l'enregistrement. Morgane transmet beaucoup de bienveillance et ses anecdotes sont à chaque fois excellentes. En attendant, moi je voulais vous souhaiter de très bonnes fêtes de fin d'année en espérant qu'on soit encore plus nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à le noter ou à le partager à vos amis. Plus on est nombreux, mieux c'est. Bref, merci à tous et à l'année prochaine.